RCF. RCF, l'entretien de la semaine.
La connaissance de la mythologie grecque est indispensable si l'on veut vraiment comprendre notre culture occidentale. Cinéma, théâtre, peinture, sculpture, jeux vidéo, proverbes et même bandes dessinées, les dieux et les déesses grecques sont partout. Romain Brett, bonjour.
Bonjour.
Ce que je viens d'affirmer, vous le savez encore mieux que moi, vous êtes professeur de langue et de culture de l'Antiquité au lycée Janson de Sailly et à Sciences Po à Paris, et vous venez de publier aux éditions du CERF « La vraie vie des dieux grecs ». Alors, comment expliquer que malgré la disparition de la religion antique grecque, les dieux grecs soient toujours présents ?
Comme vous le disiez dans votre présentation très justement, en fait, l'Antiquité est partout. Elle est même partout, je dirais, presque malgré nous. Nous confrontons à elle à tout moment, sans véritablement le savoir. Vous avez parlé de culture occidentale, moi j'élargirais, c'est une culture plus largement méditerranéenne, hein, c'est-à-dire que beaucoup des dieux que j'évoque ici sont des dieux qui viennent d'Asie, ou d'Asie mineure, et donc c'est une culture qui s'est construite autour de la Méditerranée, mais qui a ensuite essaimé, évidemment, avec l'Empire romain, et dont on trouve des traces absolument partout aujourd'hui, hein, depuis l'Angleterre jusqu'à l'Afrique du Nord, en passant par la Turquie, en passant par
on va même jusqu'en Afghanistan et à la frontière de l'Inde, et on pense à Alexandre le Grand, bien sûr.
Voilà, donc en fait ça a essaimé, comme vous le disiez, à des échelles qui sont des modes de pensée, c'est-à-dire qui sont des choses presque impalpables, ou même si évidemment les grandes religions monothéistes ont pris le relais et ont voulu d'une certaine manière effacer les traces de cette religion.
Alors justement, comment est apparu ce polythéisme grec ? Qu'est-ce que l'on sait des origines de cette mythologie grecque ?
Alors, ce qu'on sait, c'est que d'abord, il n'y a pas de livre de révélation. Hein. Il n'y a pas de Bible de la mythologie grecque. Ou alors, d'une certaine manière, les premières Bibles, eh bien, ça a été l'Odyssée et l'Iliade, hein, d'Homère, donc au 8e siècle à peu près avant Jésus-Christ, d'un auteur dont on ne sait absolument rien. Et qui a ensuite été relayé par un auteur ou un poète qui est un petit peu moins connu, qui s'appelle Hésiode, qui est un petit peu postérieur à Homère. Ce sont eux, en fait.
Donc là, on est aux alentours
du 7e siècle, 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Tout à fait. Et donc, ce sont eux, en fait, qui ont mis en scène, alors d'abord Homère dans des fictions, hein, que sont l'Iliade et l'Odyssée, qui sont des œuvres de fiction, bien sûr, et ensuite dans des œuvres un petit peu différentes, mais qui sont des œuvres presque, on parlerait de théologie, hein, puisqu'Hésiode a écrit ce qu'on appelle la théogonie, c'est-à-dire une œuvre qui explique la création du monde, donc quelque chose familier des religions monothéistes, et en même temps qui explique comment les Olympiens sont arrivés au pouvoir, leur génération, etc. Ce sont eux, en fait, hein, qui ont donné, je dirais, un petit peu les fondements même de cette religion. Mais en donnant ces fondements, ils ont donné aussi des grandes narrations et des grands mythes.
Alors dans votre livre, Romain Brett, vous avez une phrase un peu compliquée, mais vous allez nous l'expliquer. C'est ceci, le polythéisme grec est un système où l'on ne peut penser les divinités indépendamment les unes des autres et dans laquelle l'anthropomorphisme ne doit pas masquer une nature qui leur est propre. Alors, il y a deux idées fortes dans cette phrase. Expliquez-nous. Commençons d'abord, on ne peut pas penser les divinités indépendamment les unes des autres.
Oui, alors c'est pas une idée évidemment que j'ai inventée, hein. C'est une idée qui est apparue notamment dans les années 1960 à peu près, avec ce qu'on a appelé l'école de Paris, qui est une école de pensée, donc qui a été constituée de grands historiens, grands anthropologues, Jean-Pierre Vernant, Marcel Detienne, etc., qui a montré comment en fait le système polythéiste est un système, je dirais, où les divinités sont imbriquées les unes avec les autres,
c'est-à-dire une forme d'interdépendance entre
elles. Ils sont totalement interdépendantes. On peut pas penser l'une sans l'autre, c'est-à-dire que même les mythes mettent en relation alors des domaines de souveraineté, mais des domaines de souveraineté qui sont toujours confrontés entre les divinités. C'est-à-dire que ces divinités s'affrontent, par exemple, pour donner son nom ou défendre une cité, hein, ce qu'on appelle les divinités polyades, c'est-à-dire les divinités qui symbolisent une cité. La plus connue, c'est bien sûr Athéna, avec Athènes. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que dans la manière dont on pense le polythéisme, eh bien dans polythéisme, il y a polus, qui signifie plusieurs. Donc, on ne peut pas penser le polythéisme sans penser les relations entre divinités. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est l'anthropomorphisme. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, quand on pense aux dieux, on a des visages ou des corps en tête. C'est-à-dire, il suffit d'aller dans les musées pour voir représenter des statues magnifiques.
Statues de Praxitèle.
Souvent, c'est ça. Alors, c'est souvent des. Enfin, ce sont quasi exclusivement des copies romaines parce qu'on n'a quasiment pas conservé évidemment les modèles originaux des 5e, 4e, 3e.
Mais on les voit très bien. On voit très bien Zeus. On voit très bien Aphrodite.
Exactement. Et je dirais que cela a entraîné, si vous voulez, de même que les représentations iconographiques, la peinture, le néoclassicisme, tout cela a favorisé, bien sûr, l'idée que les dieux avaient des corps comme les hommes, en fait.
Bon. Mais il ne faut pas les enfermer à cela.
Non, il ne faut pas les enfermer à cela parce que l'anthropomorphisme est, comme je le disais, un des modes d'être des dieux au monde, c'est-à-dire qu'ils peuvent se manifester sous la forme
d'animaux, par exemple.
Oui,
aussi.
Vous avez raison. Zeus, qui est le plus
le
connu,
cygne, par exemple.
Oui, le cygne sous une pluie d'or, également sous un aigle pour enlever Ganymède. Bon, ce sont des êtres polymorphes, les dieux, même si l'anthropomorphisme, c'est-à-dire l'idée d'être sous forme d'homme, et leur mode de relation privilégié. C'est comme cela qu'ils se manifestent le plus souvent aux hommes. Mais en fait, la forme première des dieux, on ne la connaît pas vraiment.
RCF, l'entretien de la semaine.
Mais alors, Romain Bert, comment comprendre ces dieux grecs? Parce qu'ils paraissent tellement humains et tellement avec plein de défauts. Des qualités, des pouvoirs, mais aussi beaucoup de défauts. Quelque part, on les prend pas très très au sérieux aujourd'hui, ces dieux.
Alors, on les prend pas très au sérieux et en même temps, c'est intéressant qu'on les prenne pas au sérieux parce que même dans l'Antiquité, on se moquait de ces figures divines. On les met en scène dans des comédies. C'était le cas d'Aristophane, qui met en scène des dieux dans des comédies de manière un peu ridicule. Parfois, Dionysos, par exemple, dans Les Grenouilles. Donc, l'idée qu'on peut rire de ces dieux, on peut rire avec eux, montre effectivement leur nature qui, nous, du point de vue des religions monothéistes, est une nature imparfaite, puisque le principe des dieux monothéistes, c'est qu'ils ont toutes les perfections, évidemment. Chez les dieux grecs, non, ils n'ont pas toutes les perfections, du moins ce n'est pas comme cela que Homère, par exemple, ou Hésiode même, les ont peints.
Oui, mais comment les vénérer? Parce qu'on les vénérait à l'époque, et ça, faut pas oublier, il y avait tout un culte pour différentes divinités. Comment les vénérer et en même temps savoir que Zeus est tricheur, menteur, adultère?
Alors c'est ça qui est intéressant et qui est difficile à saisir avec le polythéisme, c'est-à-dire qu'il y a un Zeus qu'on vénère effectivement, et puis un Zeus qui va devenir un personnage de fiction qu'on va abondamment, ou un personnage tragique, comique, qu'on va pouvoir exploiter dans des œuvres que nous qualifions d'œuvres de fiction ou œuvres artistiques. En même temps, ce sont des Zeus différents, en même temps c'est le même Zeus. Et c'est ça qui est un peu difficile à saisir pour nous, c'est-à-dire que ce Zeus qu'on honore, dont on reconnaît la toute-puissance, je veux dire, ce sont des dieux, sont extrêmement puissants.
Et on les craint quelque part.
On les craint, bien sûr, il y a de la crainte, et en même temps, ils ne sont pas sacro-saints au sens où on s'interdirait de les mettre en scène ou de les présenter. Je pense à un auteur qui n'est pas forcément très connu, qui s'appelle Lucien, qui est un auteur syrien du 2e siècle après Jésus-Christ, qui a écrit un petit livre qui s'appelle « Le dialogue des dieux », où il fait des petites scénettes comiques qu'on croirait échapper de la biche ou de Phédo, dans des espèces de petites intrigues bourgeoises où les dieux et déesses, voilà.
Mais Romain Bret, on a du mal à comprendre que la même divinité puisse être à la fois bénéfique et maléfique, je le mets entre guillemets. Je pense à Aphrodite, elle est déesse de l'amour et en même temps, elle est déesse de la guerre et donc des souffrances de la guerre.
Alors, elle est très exactement la déesse, effectivement, de l'amour ou du désir, mais elle a, selon certains là aussi, selon certains commentateurs ou historiens, elle joue un rôle aussi, elle peut jouer un rôle, effectivement, au sein de la guerre. Là encore, c'est un point important concernant le polythéisme, c'est-à-dire que ces divinités, elles ont des fonctions ou des domaines d'intervention qui sont souvent très variés. On peut pas les limiter à un seul domaine d'action. Vous parliez d'Aphrodite, effectivement, qui est une déesse. C'est la déesse du désir. Le désir, pour les anciens, c'est une force irrésistible qui a ses dangers, et qui est même peut-être sans doute plus dangereuse que bénéfique. Elle a ses bénéfiques. Être amoureux, les anciens trouvaient ça très bien aussi. Ça suscite du plaisir, le plaisir sexuel aussi, bien sûr. Et en même temps, lorsqu'on est emporté par ce désir, là, on peut évidemment être sous l'influence de forces qui nous dépassent et qui peuvent nous entraîner à la folie.
Et on le voit particulièrement avec Dionysos, Vous dites le dieu qui venait d'ailleurs. D'où venait-il ce dieu Nilo?
Alors là, c'est les origines des divinités, ce sont des choses sur lesquelles les spécialistes encore sont ne sont pas forcément d'accord. Dionysos est un dieu qui venait probablement d'Orient. Hein, c'est un dieu oriental.
L'Orient, c'est souvent la Perse. Enfin,
oui, oui, ou l'Asie mineure. L'Asie mineure, c'est-à-dire la côte occidentale de la Turquie, notamment, tout à fait. Ils étaient honorés là. Ce qui est sûr, c'est que ces divinités, sous cette forme ou sous une autre forme proche, étaient honorés là. Dionysos, ce qui est extrêmement intéressant avec lui, c'est que c'est un dieu qui veut se faire reconnaître. C'est-à-dire que c'est un dieu qui veut avoir des adeptes, et ceux qui prétendent qu'il n'est pas un dieu, il les punit de manière absolument terrible. Donc c'est un dieu prosélyte en fait, et c'est une des caractéristiques de ces dieux. Ils veulent être reconnus comme tels, et ceux qui ne veulent pas les reconnaître comme tels risquent gros.
Alors Romain Brett, qu'est-ce que ces dieux de l'Antiquité ont à nous dire, à nous, hommes et femmes du XXIe siècle ?
Je ne sais pas s'ils ont grand-chose à nous dire encore aujourd'hui. En revanche, ils n'ont pas vraiment de leçons. C'est comme l'Antiquité, on dit toujours que l'Antiquité a des leçons à nous apporter. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à nous apprendre. Ce qu'ils ont peut-être à nous donner, ce sont ces narrations, ce sont ces mythes, ce sont ces histoires qui continuent aujourd'hui de nous bercer. L'idée, on le voit, c'est que les enfants grandissent encore avec ces mythes. Ils sont toujours passionnés par cela. C'est d'autant plus peut-être un peu paradoxal que la langue, le latin et le grec, comme vous le savez, sont en grande souffrance, se perdent. Et en même temps, cette culture n'a jamais été peut-être aussi forte. Et peut-être que ce livre aussi, je l'ai fait pour les enfants qui ont grandi et qui cherchent peut-être à savoir quelle est la signification propre de ces histoires, ce qu'on voyait pas évidemment pas toujours quand on était enfant.
En tous les cas, vous écrivez dans votre livre, ils sont loin d'avoir révélé tous leurs mystères, ces dieux grecs. Il y a encore beaucoup de mystères à découvrir.
Il y a encore, oui, je pense, beaucoup de mystères. Hein. Alors, on a les textes, évidemment, mais ces textes sont une source inépuisable hein, de révélations, de lectures possibles. On connaît leurs histoires et en même temps, on les connaît pas parce qu'il y a énormément d'auteurs, j'en ai parlé de quelques-uns, qui sont très peu connus.
Il y a beaucoup de sources différentes.
Beaucoup de sources.
Des informations différentes.
C'est ça. Toute la richesse de ces mythes, c'est qu'on en a des versions très différentes les unes des autres. Et je suis loin, évidemment, de les avoir épuisées dans ce livre.
Merci beaucoup, Romain Brett, de nous avoir présenté La vraie vie des dieux grecs, pour reprendre le titre de ce livre que vous venez de publier aux éditions du Cerf, qui nous donne envie de mieux connaître un peu ces différents dieux que l'on voit si souvent dans les musées lorsque nous les visitons. Merci.
Merci à vous.
Thank you.